Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, M comme Miyazaki, Hayao Miyazaki, avec Sébastien Bénédicte, Alexandre Matisse et Mathieu Macheret. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est devenu comme un rite, presque un running gag. Ça fait 20 ans qu'Hayao Miyazaki, après chacun de ses longs métrages, ou presque, annonce sa retraite. Trop de travail, pas assez d'énergie, des mains et des yeux qui s'affaiblissent. Il le dit dès Princesse Mononoke, le film qui fit sa gloire internationale en 1997. Il l'a répété en 2013 à la Mostra de Venise, où son dernier film en date, Le Vent se lève, était en compétition. Et puis voilà, pour le plus grand bonheur des amoureux de mon voisin Totoro, qui ont habité des châteaux dans le ciel ou ambulants, voyagé avec Chihiro, volé avec Nausicaa, Porco Rosso et Kiki la petite sorcière, ou encore couru sur les vagues avec Ponyo, les studios Ghibli ont annoncé l'an dernier qu'un nouveau long métrage de Miyazaki était lancé. Son titre japonais signifie « Comment vis-tu ?» et si tout va bien, nous le verrons en 2020. Mais comment tenter de vivre alors, nous spectateurs, en attendant ? Eh bien, comme les yokai et kami de ces chefs-d'œuvre animistes, des manifestations miyazakiennes surgissent heureusement dans notre quotidien pour nous faire patienter. Un documentaire sur l'artiste au travail, vieillissant et bougon mais toujours créatif, Never Ending Man, sort le 2 janvier. Son tout premier long métrage, inédit en salle, Le Château de Cagliostro, sera lui en salle le 23 janvier. La série télévisée Sherlock Holmes, dont il a dirigé 6 épisodes, est diffusée par Netflix. Et de nombreux ouvrages sortent qui lui sont consacrés, parmi eux Hayao Miyazaki au gré du vent et Un monde parfait selon Ghibli, dont nous recevons les auteurs. Sébastien Bénédicte et Alexandre Matisse, aujourd'hui dans Plan Large, pour visiter ensemble les mondes enchantés et parfois cauchemardesques, métamorphiques et cohérents, créés par un antimilitariste, chantre du féminisme et pionnier de la réflexion sur le développement durable. C'est dire si son œuvre est plus contemporaine, urgente et précieuse que jamais. En fin d'émission, Mathieu Macheret retournera en 1900. Novecento, le film monstre de Bernardo Bertolucci, récemment disparu, fait l'objet d'un coffret luxuriant proposant le film restauré en HD et c'est magnifique. Mais dans l'immédiat, Miyazaki, quel enchantement nous tient-il à ce point devant ses films ? Élément de réponse.
ナンバー不揃いで50億あるぞ。サツビアのシャワーだ。それ。
わあ、あちゃあちゃあちゃ。あっちだ。もっと埋めてちょうだいよ。
どうしたんだルパン。
ステッチマオ。
何？
こいつは偽物だよ。よくできてるがな。
これが？まさか国営カジノの大金庫からかっぱらったんだぞ。
ゴート札だよ。
ゴート札？幻の偽札というあれか。
国営カジノにまで出回ってきただな。
次元、次の仕事が決まったぜ。前祝いにパーってやっか。
Début tout à fait fracassant pour le premier film d'Hayao Miyazaki, Braquage et Faux-Billet, le château de Cagliostro, c'était en 1979. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, le film était resté inédit en salle en France, et pour cause, le personnage principal, c'est en fait un Arsène Lupin non autorisé par les ayants droit. Maintenant que le héros de Maurice Leblanc est tombé dans le domaine public, on peut lui donner son vrai nom dans les sous-titres, et non pas Wolf, comme c'était le cas auparavant pour la version internationale, ou en France, Edgar Gentleman Cambrioleur, quand la série télé... passé sur les écrans français, mais le film qu'on connaissait en France pour l'instant comme le premier de Miyazaki, c'était Nausicaa de la Vallée du Vent, dont on voit assez facilement la parenté avec le reste de l'œuvre. Qu'est-ce qui, dans ce proto-Miyazaki, que le château de Cagliostro, annonce déjà les films qui vont suivre Sébastien Bénédicte hein?
Alors, pour moi, tout l'univers de Miyazaki préexiste déjà au château de Cagliostro. On en parlera peut-être, mais il y a une série télé fin des années 70 dont il est l'auteur complet sur 26 épisodes qui s'appelle Conan, le fils du futur. Où là, on a tout Miyazaki quasiment déjà résumé. Alors, ce qu'on retrouve dans le château de Cagliostro, c'est encore, mais ça va ensuite s'atténuer, le personnage de la jeune fille qui est donc enlevée par Cagliostro, qui rappelle déjà le personnage d'une jeune fille dans la série dont je viens de parler, et qui annonce la petite Chita, notamment du château dans le ciel, enfin des petites filles comme ça, un peu a priori fragiles comme ça, qu'il va falloir protéger, et puis qui progressivement vont devenir de plus en plus fortes. Enfin, je dis progressivement, c'est déjà le cas avec Nausicaa d'emblée. Il y a aussi ce personnage qu'on va plus trop retrouver par la suite, qui est le personnage du méchant intégral, qui est inspiré, assez du docteur Mabuse notamment. Là, dans ce premier film, il est vraiment sous influence très très forte, en particulier de une de ses principales influences dans l'animation, qui est Paul Grimaud, dont il a refait certaines scènes, notamment dans un long métrage qu'il avait animé avec Takahata, son compère, qui s'appelait Le Chat Botté, où il reprend une manière d'animer propre à Grimaud. On retrouve cette influence-là, notamment dans la fin du film, la fin de Cagliostro. Et il va peu à peu, dès le film suivant, il va trouver totalement son style.
Alors, ce qu'on se trouve aussi dedans, c'est une esthétique très Europe centrale. Il y a des châteaux qu'on croirait conçus pour Louis II de Bavière par moment. Et puis et ce qu'on trouvera dans tous ces films, c'est ce que vous appelez, Alexandre Matisse, ce vertige des perspectives. Là, il y a des poursuites sur les toits complètement invraisemblables, mais il y a tout de suite cette verticalité chez Miyazaki qui va être dans toute son œuvre.
Oui, et puis ça permet de rappeler que l'animation, peut-être encore plus que le cinéma live, c'est une histoire de mise en scène. C'est-à-dire que quand vous faites un film live, bon, vous rajoutez un plan, deux plans, ça peut se faire assez vite. Le moindre plan en animation, ça prend des jours, des semaines à faire. Donc c'est toujours fait au cordeau, pensé au millimètre. Et chez Miyazaki, effectivement, il a un goût pour les espaces, le vertige. On va en reparler après, j'imagine, mais on va parler d'aviation, on va parler de voler, on va parler de machines. Comme ça a déjà été évoqué, mais déjà dans Cagliostro, il y a des moments burlesques, hein, c'est encore vraiment dans un humour typiquement burlesque, où on grimpe à travers, sur le château, sur des tours, la course-poursuite qu'on a entendue, ça finit, je crois, dans un arbre avec un carambolage invraisemblable, et déjà dans la mise en scène de Miyazaki, il y a déjà quelque chose de très précis, qu'il y avait dans ces séries qu'il a pu... soit réalisé, soit en partie réalisé. Vous avez parlé de Sherlock Holmes, dont il a fait quelques épisodes, Conan, et déjà dans Horus, il y avait déjà ce principe de grands espaces d'aventure, mais lui, il va vraiment le pousser au maximum, et c'est l'influence de Paul Grimaud, entre autres, et c'est quelque chose qu'on va retrouver après dans toute son œuvre. Et c'est très important chez Miyazaki, c'est vraiment un maître de mise en scène, et on ne le dit pas assez dans l'animation, je trouve.
Waouh. compris. Totoro ! Hein, c'est bien Totoro que tu t'appelles ? T'es un vrai gros Totoro ! Totoro.
Je ne sais pas ce que des spectateurs qui n'ont jamais vu le film peuvent s'imaginer comme image sur ce qu'on vient d'entendre. C'est évidemment mon voisin Totoro, c'est devenu l'image de marque, presque le logo des studios Ghibli et du travail de Miyazaki. Grand succès au Japon, ça viendra un peu plus tard en France. Et c'est même pas immédiat au Japon, hein. Vous le racontez Alexandre Matisse dans votre livre Un monde parfait selon Ghibli. Il sort dans une relative... indifférence, petit succès, surtout sa diffusion à la télévision et la sortie concomitante d'une peluche Totoro qui va en faire un véritable phénomène de société qui en fera en tout cas le film le plus lucratif des studios Ghibli.
Oui, et ce qui est rigolo, c'est que le film est sorti en double séance avec Le Tombeau des Lucioles, qui est un autre film des studios.
Le chef-d'œuvre d'Isao Takahata, voilà, film bouleversant.
Qui est, c'est l'inverse de Totoro, c'est déprimant au possible, c'est très très beau. Et ils avaient peur que ça soit trop dur pour les enfants, et du coup ils ont sorti les deux films de manière, en même temps. Et effectivement, c'est une diffusion télé qui va permettre notamment à mon voisin Totoro de connaître vraiment un succès d'ampleur, même s'il a eu un petit succès en salle, mais ça restait encore un peu confidentiel. Et ce qu'explique Toshio Suzuki, qui est le troisième larron des studios, donc il y a
le producteur.
Voilà, le producteur. Rabbin. Quand ils ont fondé Ghibli, ils ont vraiment fondé ça à trois: Takahata, Miyazaki et Suzuki. Et Suzuki explique que ils n'avaient pas prévu tout le plan marketing qu'on a l'impression de voir aujourd'hui. On va dans le moins de magasins, on voit des peluches dans tous les sens. C'est même le concours de celui qu'offrira la peluche Totoro à un nouveau-né en premier. C'est venu après. Et c'est quand il y a eu le succès télé qu'ils ont eu plein de ventes et qu'ils se sont dit, bah oui, évidemment, on va vendre des produits dérivés. Et c'est devenu plus qu'un film central. C'est vraiment devenu l'icône, c'est le logo. Et ce qui est rigolo, c'est que malgré tout, rien que dans l'extrait qu'on entend, il y a quelque chose de tout bête qu'on entend. C'est que c'est la petite fille qui décide du nom du Totoro. Et ça, c'est un peu à l'image de Miyazaki. C'est toujours le personnage principal, donc un personnage féminin la plupart du temps, qui va décider de son destin. Et je trouve que c'est assez amusant que dans un extrait qui paraît aussi anecdotique ou rigolo, on entende quelque chose de si fondamental dans la filmographie de Miyazaki.
Mais précisément, Sébastien Bénédicte, on a le sentiment avec cet extrait, et comme vous l'avez dit Alexandre Matisse, souvent dans le cinéma de Miyazaki, que ce monde merveilleux apparaît parce qu'il est presque créé par le désir des personnages. C'est-à-dire qu'on a un besoin de merveilleux, mais le merveilleux est déjà là, il suffit de regarder le monde. Dans le documentaire Neverending Man dont je parlais tout à l'heure, Miyazaki va dire « Mes films montrent la beauté du monde qui sans cela resterait inaperçu, et rien que la représentation de la nature dans Totoro, par exemple, appelle le merveilleux, déjà. »
Absolument. Alors, dans Totoro, c'est à la fois un film effectivement un peu doudou, comme ça. En même temps, c'est un film qui n'a pas pour rien été mis en parallèle avec Le Tombeau des Lucioles, parce que c'est aussi un film sur le deuil. La maman est malade, etc. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez sombre à la base, sur quoi va se greffer le merveilleux. Et effectivement, il va se greffer à partir de l'observation de la nature elle-même. C'est ça, cette merveille-là de la nature, qui finalement est le vrai cœur battant du film. C'est vraiment cette manière qu'a le cinéma de Miyazaki d'adosser réellement le merveilleux au réel dur, parfois, à la nécessité du deuil. Et finalement, pour moi, s'il faut un message à tout prix, bon, c'est pas un cinéaste à message, Miyazaki, mais l'idée de ce deuil, il faut regarder la nature, le fait que la nature elle-même passe par des deuils, par des renaissances, que tout fonctionne par cycle, le cycle des saisons, etc., et que c'est une espèce de sagesse, en fait, à prendre la mesure de cette merveille-là qu'on ne voit plus parce qu'elle ne fait que se répéter et on ne la regarde plus forcément. Quand on est adulte. Voilà.
Et pour le spectateur occidental, Mathieu Macherie, je ne sais pas comment vous avez reçu Totoro pour la première fois, mais on entrait dans une cosmologie japonaise qu'on n'avait jamais vue comme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, on comprend ce qu'est le shintoïsme, on comprend qu'il y a des esprits, qu'il y a des kami, des yokai, on commence à faire un peu la différence entre l'un et l'autre, et que le monde ne demande qu'à se révéler pour peu qu'on le regarde et qu'on ait un peu de croyance, et ce qui fait que ce sont des pures questions de cinéma, vous êtes des questions de spectateurs de cinéma.
Ben oui, ce qui en tout cas transcende en effet le côté un peu vernaculaire du shintoïsme, des croyances typiquement japonaises, c'est que le film fonctionne selon la mécanique du conte, c'est-à-dire quelque chose avec un schéma narratif avec lequel on est tout à fait familier. Conte conte d'ailleurs qui, au début, dans les premières scènes du film, frappe par l'empreinte réaliste. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est l'arrivée des petites filles avec leur père dans une maison. Et puis, une description vraiment extrêmement précise des parages, de la nature alentour, des champs où on fait des récoltes, du petit pont, du ruisseau, etc. Enfin voilà, avec des tas de sensations. Et puis, à un moment, c'est un détail extrêmement naturel qui va faire la transition vers le monde au-delà du miroir, enfin le monde fantastique qui gît derrière toutes ces réalités. Ça va être l'ombre dans une pièce, ce qui est appelé dans les sous-titres français les noiraudes, là, qui est animalisé, animisé, si on pourrait dire, et qui tout à coup prend vie. C'est simplement une pénombre qui s'éclaire et Miyazaki en fait des petites bêtes, voilà, qui gisent sur les murs et puis qui s'écartent à l'arrivée des petites filles. Et c'est là le passage dans le fantastique, dans le merveilleux qui est amorcé. Et puis on peut dire aussi sur Mon voisin Totoro, je crois que c'est Miyazaki qui le dit, que le film est d'autant moins éloigné du tombeau des Lucioles qu'il est, je crois, fondé sur les souvenirs de Miyazaki, notamment sur l'évocation d'une époque qui serait les années 50. Hein, il y a quelque chose de rétrospectif aussi dans Mon voisin Totoro, qui est une des données du film assez, assez importante. Il y a une matière souvenir, quoi.
Elle est venue seule?
Oui, on la tient, elle est prise au piège. Elle est venue pour vous tuer, mais c'est pas une surprise.
Tant pis pour elle. En avant!
Place, place! Laissez passer!
Mononoke, princesse des démons, m'entends-tu? Si c'est moi que tu cherches, je suis là! Tu désires venger tous les animaux que j'ai tués? Il y a deux jeunes femmes ici avec moi qui crient vengeance, elles aussi, pour leur mari! Leur mari dévoré par tes loups!
Montre-toi, maudite! Mon mari est mort à cause de toi!
Vous écoutez France Culture, plan large sur Hayao Miyazaki. On a entendu, c'est Princesse Mononoke, la princesse sauvage San, qui attaque les forges avec ses loups, avec ses louves plutôt. Alors là, on est en plein pied dans le Mononoke presque adulte, enfin complètement adulte d'ailleurs, c'est certainement le plus adulte de ces films avec son dernier, Le Vent se lève, et c'est le film qui fait découvrir Miyazaki réellement au grand public en France et qui l'impose comme un anti-modèle au cinéma de Walt Disney, c'est-à-dire que c'est une princesse, oui, alors c'est bien un film de princesse, mais c'est une princesse sans prince, c'est une princesse qui se débrouille toute seule, qui est une guerrière, une amazone, et les enjeux ne sont pas du tout disneyens là pour le coup, Sébastien Bénédicte.
Non, clairement pas. Princesse Mononoke, c'est vraiment le film qui place Miyazaki au centre d'une de ses thématiques principales, qui est l'écologie. Mais c'est une écologie qui est complexe. Il n'y a pas cette opposition franche qu'il y a, comme chez son compère Takahata, entre la ville, la campagne. Quand on voit un film comme Pompoko, il y a une vraie... détestation de tout ce qui peut être moderne de la ville. Enfin, il y a presque un anti-modernisme, une vraie nostalgie dans la destruction de la campagne. C'est plus subtil que ça chez Miyazaki. Il y a vraiment l'idée de rechercher un équilibre, c'est-à-dire de mettre... Alors, on voit évidemment dos à dos la destruction de la forêt et aussi l'avènement d'une certaine forme de modernité via l'industrie. L'industrie, on a dit, son goût pour les machines, puis pour l'aviation plus particulièrement, c'est quelque chose qui est aussi très présent chez lui. Il a une vraie fascination aussi pour les machines produits de l'industrie, auxquelles il donne une âme. Et une âme, on en reparlera peut-être, mais une âme souvent animale, justement, et beaucoup de machines qui sont à la fois machiniques et animales.
Oui, il y aurait le démon Calcifer dans le château ambulant qui fait se mouvoir tout ça. Mais c'est intéressant ce que vous dites par rapport à Takahata, parce qu'il y a une idée quand même qui revient régulièrement sur Miyazaki, Alexandre Matisse, que ce serait un réactionnaire, quelqu'un qui serait l'ennemi du progrès, qui voudrait retourner à un Japon ancestral. C'est toujours beaucoup plus compliqué chez lui.
Ah oui, c'est beaucoup plus subtil. Effectivement, Princesse Mononoké est celui qui prend le plus parti là-dessus. Il reste malgré tout amoureux de la nature, ça c'est une évidence, mais ça va avec son amour des avions. Et par exemple, l'aviation, c'est à la fois des machines magnifiques, donc il adore l'artisanat, et même dans des films qui n'en parlent pas directement, par exemple Ponyo, on voit plein de bateaux, on sent qu'il adore ça, il adore les dessiner, il adore les animer, les avions encore plus. On le voit dans Le Vent se lève, c'est-à-dire qu'il est omnubilé par la beauté de l'avion, mais c'est quand même des avions qui vont semer la mort. Dans Princesse Mononoké, effectivement, les forges, elles sont, par exemple, la manière dont ils dessinent les forges, dont ils dessinent la cité de Dame Eboshi, elle est magnifique, mais la forêt est encore plus magnifique d'une certaine manière. Donc on sent très bien que ça le travaille, et à la fin de Princesse Mononoké, il renvoie effectivement les deux parties dos à dos, et le personnage de Dame Eboshi, dans une première version, devait être sanctionné, on va dire, durement. Il voulait la faire mourir au début, et puis finalement, non. Et il va lui faire dire, à la fin du film, qu'elle va reconstruire des forges, mais en faisant sous-entendre que c'est plus, qu'elle sera plus respectueuse. Maintenant, effectivement, ça reste une période de transition, parce que c'est une période où la poudre arrive, et du coup, ça reste une période à la fois de destruction, mais il va falloir refonder là-dessus. Il faut prendre part au fait qu'il y a des évolutions, avec ce que ça a de très beau, mais il faut respecter la nature.
Une pépite. Qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu. Vous n'êtes sûrement pas un client. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Dehors! De vraies pépites d'or. Vous pourriez m'en offrir encore? Vous savez faire de l'or? Donne-le-moi!
Qui est-ce qui fait tout ce tintamarre? On ne respecte même plus le couvre-feu. Oh!
Oh! Monsieur le vieux monsieur, vous n'auriez rien à manger. Je meurs de faim.
Oh, je reconnais cette voix.
Notez d'avance. Attrapez. Je suis un bon client, et moi aussi je veux prendre un pain. Réveillez tout le personnel.
Papa, maman, l'esprit de la rivière m'a donné ça pour vous. Si vous les mangez, je suis sûre que vous redeviendrez humain. Papa, maman, c'est moi. Papa, au secours!
Le voyage de Chihiro, alors là c'est la consécration mondiale pour Miyazaki, hein. Ours d'or à Berlin, Oscar du meilleur film d'animation, au Japon, je ne sais plus combien de millions d'entrées, 23 millions d'entrées au Japon, un succès phénoménal, et sans doute, enfin pour moi c'est son plus grand film dans lequel on se replonge très régulièrement avec bonheur. C'est le film qui dénonce l'avidité, qui va mettre en scène la dévoration, Mathieu Macheret, mais qui pose une question qui est un peu générale pour tous les films de Miyazaki. Est-ce que ce sont des contes initiatiques? Est-ce que Chihiro subit ou vit une initiation dans ce film? Pas vraiment.
Pas vraiment, quoique, enfin si, on peut trouver qu'il y a une forme initiatique, dans le sens où elle est montrée au début du film comme une petite fille boudeuse qui
craintive, un peu
craintive, recroquevillée à l'arrière de la voiture, alors que, situation symétrique à mon voisin Totoro, ses parents l'emmènent s'installer dans une nouvelle maison, hein, ils vont faire une halte en cours de route, là encore on retrouve exactement la structure du conte, si on voulait comparer à quelque chose d'occidental, plutôt Alice au Pays des Merveilles pour Chihiro. Miyazaki disait pour ce film qu'il voulait parler à la jeunesse aussi, à une certaine jeunesse japonaise qu'il sentait elle aussi mal dans sa peau, avec une difficulté d'ouverture à l'extérieur, d'ouverture vers travers le monde, de prise de contact avec la réalité, etc. Et Chihiro est bouleversant parce que c'est un film aussi, c'est un message adressé à la jeunesse, un appel comme ça à s'ouvrir. Et puis bah tout le séjour de Chihiro dans le monde des esprits va être une façon d'apprendre à travailler déjà, à exécuter des tâches et aussi à résoudre des problèmes, à comprendre un petit peu l'organisation d'un univers qui est autour d'elle. Et tout le parcours du film va être des retrouvailles avec un nom, hein, une façon de se nommer qui va la révéler à elle-même.
Sébastien Bénédicte.
Oui, juste je voulais revenir un petit peu sur ce qui a été dit, parce que moi, je vois pas vraiment Chihiro comme ça, je le vois pas comme un conte vraiment initiatique. Enfin, moi, je vois vraiment le Chihiro comme un anti, presque un anti Alice quelque part. Chez Carole, Alice, elle est aux prises avec ses propres délires, avec son inconscient, avec sa sexualité aussi, avec toute cette dimension-là qui est complètement absente chez Chihiro. Il y a quelque chose de complètement absent chez Miyazaki, c'est l'idée d'absurde, de non-sens. Tout fait signe, au contraire. Tout fait signe. Et l'initiation, oui, on peut dire qu'il y a initiation, mais c'est presque elle qui apprend beaucoup plus aux autres personnages qu'elle se retrouve beaucoup plus en situation de presque de surplomb moral vis-à-vis des autres personnages, que ce soit Haku qui est aux prises avec ses passions, que ce soit Yubaba la sorcière qui lui a volé son nom, qui elle-même est aux prises avec ses passions, en particulier de mère parce qu'elle a un énorme bébé. On parle de gestes, effectivement, on est dans l'animation la plus débridée, dans la mesure où quasiment tout est possible. Hein. Parfois, on a l'impression d'être chez Tex Avery, alors pas stylistiquement, mais dans le mouvement. Mais elle a presque un côté très très bonne élève, très passive en apparence, et qui va déranger tout le monde autour, les dieux, etc.
Mais d'autant que les dieux sont fragiles chez Miyazaki. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça des dieux, on les appelle dieux ou démons dans les sous-titres français, souvent on se trompe, hein. Il va falloir parler de Yukai, de Camille et autres. Il y a cette figure du dieu putride qu'on voit dans le film, ceux qui l'ont vu s'en souviennent, cette espèce de tas de boue qui se déplace et qui en fait était blessé. C'est une rivière qui a été salie, très, très concrètement parlant, Alexandre Matisse.
Oui, qui a été souillée par l'homme, c'est-à-dire qu'au début ça ressemble juste à une épine à retirer, puis quand Chihiro tire, eh ben, elle retire des vélos, plein de bouts de ferraille, des tonnes de choses, et puis à la fin ça reste juste une espèce de une petite créature qui est heureuse d'avoir été nettoyée par les bains. C'est ce qui est magnifique en fait dans Chihiro, enfin, entre autres il y a plein de choses magnifiques, mais il y a ce lieu dans lequel tous les kami viennent se reposer. C'est-à-dire que même les... Alors, donc, les kami, c'est pas vraiment des dieux. Mais
c'est l'esprit voilà. dans la pensée animiste. Hein. C'est l'esprit exactement. De l'arbre, l'esprit de la rivière, l'esprit du rocher.
Exactement. Et ils ont le droit de se reposer. Ils ont le droit de se soigner. Et il y a des gens qui sont là pour prendre soin d'eux. Alors, c'est des créatures. Et ce qui est incroyable, c'est que donc, il y a un message politique, on va dire un message social qui passe, c'est-à-dire à la fois préserver la nature, et puis ce film sort juste après une crise financière très importante au Japon, et il y avait eu une espèce de dévoration immobilière, où les gens achetaient, notamment dans l'immobilier, et puis à un moment, cette bulle a explosé, et il y a ce message, les parents sont transformés en cochons, ils se gavent, et le père dit, mais je peux prendre, de toute façon j'ai une carte bleue, donc je peux payer, et Chihiro est terrifié, genre c'est pas parce que t'as une carte bleue que tu peux prendre la nourriture sans nous demander l'autorisation, donc il y a évidemment une métaphore, mais au-delà de ça, ce qui est magnifique chez Miyazaki, et ce qui le rend si universel aussi, pas seulement... pour les Japonais, pour les Européens, pour les plus grands, les petits, pour tout le monde, c'est qu'on a vraiment envie de vivre dans ces films. On a envie d'être dans ces bains, et il est, même si on visite pas tout, on a quasiment dans la tête une géométrie très précise de où on va, elle passe par tel ascenseur, c'est vrai dans le château ambulant, on a envie de visiter tous les recoins, dans le château dans le ciel, donc c'est, il recrée quasiment l'île volante de Laputa de Swift, et pareil, on a envie de visiter, on a envie d'aller partout. Je pense que c'est, pour moi, le plus grand réalisateur contemporain dans le fait d'avoir envie d'être dans les films. Au-delà de ce qui est raconté, qu'à l'image, on pourrait naviguer à droite à gauche. Et je pense que c'est pas pour rien qu'une société comme Nintendo, qui crée des univers de jeux vidéo, est parfois un peu raccrochée indirectement, on raccroche parfois les univers des jeux Zelda au monde de Miyazaki, alors avec des limites. Mais c'est normal, parce que c'est des univers dans lesquels on plonge, et les gens qui sont fans de Zelda le disent, on plonge dedans, on n'a plus envie d'en sortir. Et Miyazaki, si on a envie d'y revenir, si ça touche toutes les générations, c'est qu'on a envie de retourner dans ses bas. On a envie de s'y baigner, on a envie de s'occuper des esprits, on a envie d'aller dans le château, on a envie d'aller dans tous ces univers. Même si des fois c'est compliqué, qu'il y a des guerres dans le château ambulant, on a quand même envie de s'y loger, d'aller voir les balcons, d'aller... C'est extrêmement agréable comme cinéma.
Courage mon grand, accroche-toi, on est bientôt arrivés. une petite fille. Viens, viens ici, ne reste pas là, c'est dangereux. Viens vite. Sasuke, tu ne bouges pas d'ici.
Un peu coupé la parole, Sébastien Bénédicte, mais il fallait regarder Ponyo courir sur les vagues pour rejoindre son ami Sosuke. C'est Ponyo sur la falaise, un film qui a 10 ans, mais qu'on revoit là encore aussi avec bonheur. C'est aussi un monde qu'on a envie d'habiter. Et vous vouliez dire, Sébastien Bénédicte, qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de frontière chez Miyazaki entre des mondes. Et on le voit ici, on peut voir une petite fille courir sur les vagues à côté d'un garçon en voiture. Tout cela coexiste de manière tout à fait harmonieuse.
Voilà, il n'y a donc pas de traversée du miroir, clairement. Le merveilleux et le réel, c'est les deux faces d'une même médaille. Et effectivement, il y a une cohabitation de tous les instants. Pour revenir brièvement sur Chihiro, ce qui est très beau dans l'apparition des divinités au début du film, c'est simplement la nuit qui tombe, les lanternes s'allument et révèlent presque en transparence, hein, comme s'ils étaient déjà là, les divinités qu'on peut aussi considérer comme des fantômes, les divinités hantent le réel. En tout lieu, de tout temps. Cela, c'est très japonais, effectivement.
C'est un cinéma révélé, hein, dites-vous, le cinéma de Miyazaki.
Oui, c'est un cinéma révélé à ceux qui veulent bien le regarder avec, comme il faut, quoi.
Alors, c'est vrai que quand Ponyo est sorti, le public adulte de Miyazaki a pu être un peu désarçonné parce qu'on revenait à un trait plus enfantin, à une histoire apparemment vraiment pour les enfants. Or, c'est précisément le sujet du film Alexandre Matisse. C'est un film sur la possible perte d'innocence et surtout comment comment en grandissant, on peut perdre la magie. C'est l'histoire de la sirène qui se transforme en petite fille et qui perd ses pouvoirs au fur et à mesure qu'elle devient humaine et qu'elle grandit. Mais c'est aussi pour le spectateur la possibilité de retourner, lui, de faire le chemin inverse, c'est-à-dire de se souvenir de cette époque où le monde était enchanté.
Ouais, si je schématise un petit peu, chez Miyazaki, les adultes perdent un peu, malgré tout, le pouvoir de voir. Alors, ils peuvent le faire avec de la volonté, mais globalement, le père ne voit jamais les Totoro, même si on suppose qu'il les a peut-être déjà vus. Dans Ponyo, par contre, la maman voit, elle, les événements magiques arriver. Mais c'est parce que le petit poisson qui devient petite fille arrive. Et en fait, le vrai défi, c'est que pour l'enfant, pour l'être jeune, on va dire, de manière générale, parce que c'est un petit poisson, Ponyo, au début, comme la petite sirène, d'une certaine manière, elle va peut-être perdre ses pouvoirs. C'est exactement comme Kiki, la petite sorcière, qui est un film qu'on n'a pas évoqué, mais qui date de 1989, où on a une sorcière qui est en fait une petite fille normale, si ce n'est qu'elle peut voler avec son balai et elle peut parler à son chat. Et ben, à un moment où elle tombe amoureuse et où elle devient un peu adulte, dans un monde tout à fait normal a priori, ben elle n'arrive plus à voler. Donc c'est comment devenir adulte, assumer ses sentiments, grandir, tout en gardant son pouvoir. Pour Ponyo, c'est un petit peu le même défi. Comment je fais pour devenir une petite fille? Il faut que je renonce à mes pouvoirs, il faut que je devienne vraiment une petite fille mais plus un poisson. Sauf que on parlait tout à l'heure de Disney. Disney a fait une adaptation plus proche, plus littérale de La Petite Sirène. Ponyo s'en inspire de manière un peu plus éloignée. Chez Disney et chez Andersen, il y a quelque chose de moralisateur, du genre si tu fais ça, tu perds ta voix. Chez Andersen, tu finis en écume. Chez Ponyo, pas du tout. Même si son papa, à Ponyo, essaye de lui dire non, n'y va pas, essaye de la récupérer. À un moment, il comprend que les deux mondes peuvent coexister, pardon, et il va très bien l'accepter. Et il n'y a pas de méchant. Il y a deux univers qui vont essayer de vivre l'un avec l'autre, la nature et le monde des hommes un peu plus industrialisés. Et c'est un monde de paix. Et je trouve que même si le film est effectivement enfantin, on peut le montrer dès 4-5 ans, celui-ci par exemple, je trouve que pour les adultes, il est rempli d'un message positif et puis un vrai bonheur. C'est des dessins pastels, il fait évoluer son trait parce qu'il allait très loin dans...
C'est le retour à l'animation papier, hein, après avoir un peu expérimenté les images de synthèse.
Ouais, donc il n'est pas hyper friand, même s'il en met un petit peu. Mais là, c'est même dans les couleurs, il teste quelque chose d'un peu différent. Et ce que j'aime bien aussi ouais, chez Miyazaki, c'est ce côté... les adultes, en théorie, n'ont plus accès ou moins accès facilement au monde magique. Et pour pouvoir voir ce monde magique comme disait Sébastien, bah lui il nous donne l'accès. Je vous montre le pouvoir des enfants, vous, spectateurs adultes, bah vous le revoyez, vous revivez votre enfance, et je trouve ça assez grisant.
Hé hey, ma tu qui s'arresti?
Je suis japonais, monsieur.
Un ragazzo giapponese. Come mai ti trovi qua?
Je rêve. Vous et vos avions, vous êtes dans mon rêve.
Un sogno? Fermoli. Non muoverti.
Sachez que ceci est mon rêve, jeune homme.
C'est aussi le mien, monsieur.
En êtes-vous certain? Cela voudrait dire, jeune homme japonais, que nous partageons, vous et moi, exactement le même rêve?
C'est curieux. Vous êtes le comte Caproni, c'est bien ça? Je suis ravi de vous rencontrer, monsieur.
C'est amusant. Nous sommes bien dans un rêve. Le monde est un rêve. Bienvenue dans mon royaume.
Je suis très honoré.
Regardez-les. Partent bombarder des villes ennemies. Nombre d'entre eux ne reviendront jamais. Heureusement, la guerre sera bientôt finie. Montez, je vous invite, jeune homme. Voici mon rêve. Celui que je construirai après la guerre. Il est magnifique, n'est-ce pas? Prêt à décoller? Celui-ci ne transportera pas des bombes, mais des passagers. En réalité, cette trappe n'existe pas. Mais les rêves ont cela de bien, c'est que tout y est permis.
Les rêves ont cela de bien que tout y est permis, et en même temps, ces rêves peuvent aboutir à des catastrophes. On n'est pas dans Porco Rosso, ça aurait pu, puisque ce film, c'est Le Vent se lève, le dernier film en date de Miyazaki, film assez jumeau avec Porco Rosso, parce qu'il y a un rapport avec l'Italie. Porco Rosso se passait entièrement en Adriatique, parce qu'il est question du bonheur de construire des machines, des avions, avec des détails très techniques par moment. On se souvient des scènes de réparation de Porco Rosso avec des termes que personne ne peut comprendre. Sauf les férus d'aviation, et puis qu'il est surtout question de ces belles machines volantes qui servent parfois à bombarder des villes et à causer des morts. Et l'homme qu'on vient d'entendre, c'est Caproni, comte de son état, ingénieur génial de l'aviation italienne, mais aussi créateur d'un avion qui a beaucoup servi à la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, menée par les fascistes, notamment leurs opérations en Afrique. C'est le CA-309 Ghibli qui a donné son nom au studio. Je crois que les Japonais disent plutôt Ghibli, hein, mais en italien, c'est Ghibli. Alors c'est un nom qui est d'autant plus poétique que c'est le nom d'un vent. Ça veut dire Sirocco, Sirocco en arabe. Et alors ce film va être, Mathieu Macheret, un peu le film de tous les malentendus, là encore. C'est-à-dire qu'on va reprocher, selon du côté qu'on est, notamment au Japon, mais aussi en France. J'ai lu ce genre de polémique. Soit on dira que c'est un film extrêmement militariste, ou alors c'est un film qui ne veut pas voir le résultat de ses recherches. Les nationalistes japonais vont dire c'est un film défaitiste, enfin c'est le film qui ne plaît à personne.
Ça c'est clair, le film a été accusé de tous les côtés, en tout cas, alors soit d'être trop militariste, soit de pas être assez antimilitariste, enfin bon, c'est assez curieux de voir ça. En effet, on a un personnage qui exprime, je sais pas si on peut dire une dualité, enfin en tout cas une forme de complexité, qui est cet ingénieur, le père de Miyazaki était lui-même un ingénieur, qui a dessiné des des parties d'avions, je sais pas exactement lesquelles, pendant la seconde guerre mondiale. Je crois que son oncle avait une entreprise, voilà, de
pas partie d'avions qui ont servi à faire les zéros sur lesquels partaient les kamikazes.
Ouais, les avions des kamikazes. Donc c'est aussi encore une fois une histoire personnelle. Miyazaki a appris à dessiner, c'est des choses qu'il raconte en dessinant des parties d'avions ou des avions ou des machines volantes parfois un peu fantasques. Et ce film est bien sûr la trace de cela. C'est le film qui a l'empreinte historique la plus forte, hein. C'est vraiment un film de rupture et une sorte de film qui ramasse à la fois un peu tous les précédents et qui s'en distingue aussi nettement. Dans ce personnage d'ingénieur, on a quelqu'un qui à la fois est fasciné par le rêve, un rêve d'ingénierie, un défi à relever, réduire la masse de l'avion, augmenter son aérodynamisme, qui est une sorte de presque d'abstraction ou en tout cas de d'élan très naturel et qui va être récupéré, réinvesti, digéré par l'histoire dans un but tout à fait terrible qui sera la destruction. C'est en effet, comme vous l'avez dit Antoine, l'avion des kamikazes, le zéro, qui va semer la destruction. Donc quelque part c'est l'ambivalence totale de cette nature profonde, de cet élan de recherche qui est dans l'homme, qui est à la fois une sorte de germe qui correspond à sa propre nature et qui, des intérêts tout à fait étrangers, peut être perverti. Hein. C'est le fameux motif du chancre chez Miyazaki. Il y a toujours dans tel ou tel personnage un chancre, quelque chose qui est plongé dans son corps et qui va dénaturer une sorte d'élan ou de source originelle. Hein, on parlait dans Chihiro, il y a des personnages qui crachent tout à coup un espèce de noyau maudit,
dans Princesse Mononoke, les dieux maudits habités par une matière noire qui contamine ceux qui les attaquent. Alors ce qui a pu désarçonner aussi le public quand ce film est sorti, c'est que c'est un film extrêmement réaliste en apparence, c'est-à-dire il n'y a aucune intervention de créature du merveilleux, et pourtant Sébastien Benedict, vous écrivez dans votre livre que les mêmes dieux sont à l'œuvre que dans toute la filmographie de Miyazaki, sauf que là, il choisit de ne pas nous les montrer.
Voilà, exactement. Mais on retrouve la même ambivalence. Hein. Comme Mathieu l'a dit, dans l'homme lui-même, dans la nature elle-même. C'est un film qui commence par un tremblement de terre. Le film précédent, Ponyo, commence. Enfin, c'est aussi la menace d'un tsunami. Donc, encore une fois, la merveille et le cauchemar proviennent de la même source. Le Japon étant insulaire et souvent soumis à des dérèglements climatiques, comme beaucoup, a l'habitude de vivre avec cette menace de la catastrophe naturelle. Et il y a une certaine forme de respect, d'abnégation aussi, pour ce qui peut être à la fois très beau, enfin une vague immense, ça peut être magnifique. Le tremblement de terre, d'ailleurs, il est filmé comme un pur morceau de bravoure et d'animation et de montage. C'est vraiment une scène très très impressionnante. Et en même temps, c'est le lieu, enfin, en plein cœur de tremblement de terre, c'est le lieu de la naissance d'un amour entre donc le personnage principal, Jiro, et une jeune femme qui... je parle beaucoup de l'importance du vent, c'est le vent qui les pousse à se rencontrer puisqu'elle rattrape son chapeau au vol. Et c'est un amour qui va être lui aussi ambivalent puisque il fume comme un pompier, elle est tuberculeuse... Elle le laisse faire et c'est un amour qui se consume littéralement. Il donne à l'amour comme la mort. Voilà. Et donc c'est à la fois très japonais, autre ambivalence, à la fois très japonais évidemment par rapport aux références historiques qui y sont faites. C'est aussi un film, comme beaucoup d'autres avant, très très influencé par l'imaginaire et la culture de la mythologie européenne.
Thomas Mann.
On est dans la montagne magique en particulier, ouais. Où il est vraiment fait référence à son héros, Castorp, que va rencontrer Jiro. Donc il y a vraiment comme ça une agrégation de choses différentes, une vraie richesse. Et c'est vrai que l'ambivalence, elle est là depuis toujours. Donc je comprends pas tellement pourquoi on s'en est étonné. C'est pourtant ce qui fait la force du film, à mon avis. その向こうできっとあなたに会える
づいて見えるけれど、この両手は光を抱ける。さよならの時の静かな胸、ゼロになる体が耳を澄ませる。生きている不思議、死んでゆく不思議、花も風も街もみんな同じ。ララララララララララ、
rêvons toujours les mêmes rêves aimés, chante Yumi Kimura dans Le Voyage de Chihiro. Merci beaucoup Sébastien Bénédicte et Alexandre Matisse pour Rêver encore et toujours. Vos livres respectifs Hayao Miyazaki Au gré du vent et Un monde parfait selon Ghibli sont édités respectivement chez Rouge Profond et Playlist Society. On signale également le beau livre dirigé par Victor Lopez, Mouton électrique Hayao Miyazaki, Nuance d'une œuvre. Et puis si comme Hayao Miyazaki vous aimez l'Italie, sachez que M6 Vidéo propose de quoi garnir avantageusement l'Albero di Natale avec ses DVD et Blu-ray de nos amis. Réussiront-ils à retrouver leur ami mystérieusement disparu en Afrique, d'Ettore Scola, Divorce à l'italienne de Pietro Germi, un coffret Marcello Mastroianni en 6 films et un livret, ou encore un autre coffret Pasolini et Amici en 9 films. Mais le summum de l'édition Blu-ray DVD en cette fin d'année, c'est ça.
Il tuo amico, Chissà se tu ci riesci meglio. Non ce l'hai l'amorosa?
Che vuoi tu?
Stavo pensando alla bella Anita.
Lascia stare Anita.
È la tua amorosa.
Dai, bevi anche tu.
No, 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 grazie. Dopo divento così strana.
Ah, ma sì, questo è il bello. Avanti, bevi, bevi, ci divertiamo di più. Così.
E la vuoi sposare?
Oh, è già mia moglie. Ma non ci siamo sposati. È la mia compagna.
Niente matrimonio. Sono bolscevichi, il libro amore, capisci? La mano ti si è stancata. Tu sì che lo sai cos'è il libero amore, eh?
Non farmi domande difficili.
Rispondi e lasciala stare.
Non so niente, non sono mica istruita.
Cos'è? Mi prendi in giro, puttanella? Lo sai cos'è il libero amore?
Mi vergogno. Io mi vergogno. Vi prego, andate via. Prego, andate via. Vi prego. Andate.
Oh mio Dio. È un epilettico.
Gérard Depardieu et Robert De Niro, nus dans le même lit, invités à se toucher mutuellement par une lavandière prostituée qui s'avérera épileptique. Vous en aviez rêvé. Eh bien, Bernardo Bertolucci l'a fait. On a beaucoup glosé lors de sa mort il y a presque un mois du scandale du dernier tango à Paris, réactivé pour cause de mouvement MeToo. On a moins raconté comment le succès mondial du dernier tango à Paris lui a donné coudée franche et plus encore pour réaliser ce film fleuve, monstrueux, complètement improbable qu'est 1900 Novecento, ou comment la United Artists, la Paramount et la Fox ont financé conjointement une fresque en forme de monument dédié au Parti communiste, magnifiquement photographié par Vittorio Storaro, le grand cinématographo qui était notre invité dans Plan Large en mars dernier. Ce film épique en 4 saisons et 5h20 qui vont de la mort de Verdi en 1901 à la libération de l'Italie en 1944 est proposé dans sa version restaurée HD par Wildside en un coffret Blu-ray DVD très fleuri, tout à fait luxueux, qui s'ouvre comme une fleur vénéneuse pour laisser surgir les fantasmes et les obsessions d'un cinéaste qui n'a sans doute jamais été aussi génial que dans ce film-là, Mathieu Macheret.
Ça, c'est vrai que c'est le grand moment charnière de la carrière de Bertolucci. Et 1900, on peut le voir comme un film monstrueux, c'est presque une aberration. C'est un film pétri de contradictions, comme si Bertolucci avait vraiment voulu tout mettre dedans, sur un demi-siècle de lutte paysanne et de rapport de classe en Émilie-Romagne, depuis les révoltes agricoles de la fin du 19e jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est en effet le dernier tango à Paris et son succès sulfureux qui avait permis à Bertolucci et à son producteur Alberto Grimaldi d'être approché par la Paramount, hein, qui voilà, c'est un célèbre studio hollywoodien qui a mis à la disposition du cinéaste des moyens considérables qui lui ont permis de réunir aussi un véritable plateau de stars internationales. Alors, vous avez dit Gérard Depardieu, Robert De Niro, mais aussi Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Burt Lancaster, Sterling Hayden, Johnny Guitar, hein, pour ceux qui s'en souviennent, Donald Sutherland, Laura Beatty, Alida Valli, enfin bon, c'est vraiment impressionnant. Et Bertolucci, quant à lui, a détourné un petit peu cette manne du studio pour déployer une vision politique d'inspiration clairement marxiste, puisque la fresque qu'il a composée retrace tout ce moment politique de la première moitié du XXe siècle. Et dès le départ, le projet est tiraillé, on va dire, entre deux ambitions a priori irréconciliables, celle d'une superproduction populaire, s'accommodant pour les besoins du grand spectacle, d'artifice, puis même parfois de simplification, et puis celle du didactisme politique. Il y a toute une, sans trop spoiler, hein, toute une dernière partie du film qui est un tribunal politique, un peu brechtien, qui implique une certaine forme de distanciation intellectuelle vis-à-vis de ce qu'on pourrait appeler l'émotion au premier degré. Et c'est d'ailleurs ce qui, grosso modo, sera reproché au film au moment de sa sortie et va causer jusqu'à aujourd'hui un défaut de reconnaissance de cette œuvre qui est immense en regard de l'histoire du cinéma. Le film sera taxé par une partie de la critique italienne de berlinguerisme, on pourra dire, à savoir d'adopter la ligne du Parti communiste italien et de valoriser, enfin en tout cas de valider la ligne du compromis historique, hein, d'après Enrico Berlinguer, qui était le secrétaire général du PCI à cette époque. Mais aussi de, là c'est plutôt la critique française, de ne pas suivre les recommandations esthétiques portées par la gauche radicale de l'époque, héritée vraiment d'un brechtisme total visant à briser les mécanismes de l'illusion comique comme de l'identification primaire au personnage. Et en effet, le film semble opter pour des oppositions franches, parfois un schématisme assez net, puisqu'il raconte l'histoire de deux amis. L'un fils de paysan, c'est Gérard Depardieu, l'autre fils de propriétaire, grand propriétaire terrien, joué par Robert De Niro, héritier, qui sont nés le même jour, sur le même domaine, et qui vont traverser ensemble tous les accidents et les convulsions du siècle commençant, des guerres agricoles jusqu'à la montée du fascisme, des deux guerres mondiales jusqu'à la libération, et dans le sillon de laquelle se dessine l'espoir d'une possible collectivisation des terres.
Forza avanti, tutti insieme!
On entend bien ce qui est, on va dire, l'une des clés de 1900, c'est-à-dire une forme de théâtre populaire qui fait se rejoindre musique, cœur de personnages. Bon, on pense évidemment à l'opéra vers lequel l'orne toute la partition magnifique de Ennio Morricone. Hein, les voix des personnages se mêlent toujours à la musique. C'est porté par une sorte de collectivité comme ça qui fait penser à l'opéra vériste, au cœur des esclaves dans le Nabucco de Verdi. Et par le biais de l'opéra, le film s'inscrit dans une certaine histoire transatlantique d'un lien spécial entre l'Italie et Hollywood. Hollywood autour d'un rêve partagé de cinéma grandiose qui serait capable à lui seul d'embrasser les fastes du grand spectacle, les tourments de l'histoire, alors sans remonter au Cabiria de Giovanni Pastrone qui avait inspiré Griffith, ou on peut simplement parler de Sergio Leone qui allait tourner lui-même aux États-Unis, il était une fois en Amérique. Enfin, il y a toute cette histoire dont la pierre de touche et a été à un moment Cinecittà, le cinéma américain est venu se construire une seconde santé dans l'après-guerre en Italie, il a prêté ses acteurs à bon nombre de productions italiennes, on pense aussi au Guépard de Visconti qui a été l'un des plus splendides résultats de cette histoire, et le Guépard, hein, il y a une continuité évidente, c'est la présence de Burt Lancaster qui est là dans les premières scènes de 1900 et qui est le Guépard qu'on pouvait déjà aussi qualifier peut-être de super production d'inspiration marxiste. Donc c'est dans cette parenté-là que 1900 trouve un équilibre inespéré, une sorte de point de bascule qui lui permet de contenir toutes ces contradictions. Mais son véritable équilibre, l'endroit où ces contradictions s'annulent, et ce qu'il a de plus beau, c'est peut-être sa magnifique trivialité. Impossible d'avoir vu le film sans se souvenir du chapelet de grenouilles avec lequel jouent les deux enfants, de la visite de Depardieu et de Niro qu'on a entendu au début avec une prostituée qui sont amenés comme ça à se caresser mutuellement, ou plus généralement de la place accordée au corps et à la pulsion de vie qui est essentielle dans le déroulement du film. La pulsion de vie, c'est le mouvement de l'histoire, c'est le ressort secret de tous les événements historiques. Et le réseau secret qui lie la grande à la petite histoire n'est pas ailleurs que dans cette énergie pulsionnelle qui est le moteur à explosion des choses qui changent comme des corps sociaux qui s'embrasent.
Merci Mathieu Macheret. 1900 Novecento de Bernardo Bertolucci en coffret vidéo HD, c'est chez Wildside. Et puis pour en savoir plus, on vous engage à réécouter en podcast Le Mauvais Genre du camarade de François Angelier de samedi dernier, qui lui était en grande partie consacré. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Nicolas Delmas. L'émission était préparée par Pascaline Chihiro-Bonnet et réalisée par Somani Mononoke Na avec la participation d'Elena Filmon.
Sei tu un bambino. Ce n'è di tempo. È finita.